La semaine des médias en radio.
Ça, c'est Radio Bus.
Chaque jour, des émissions en direct d'école des quatre coins de la Suisse romande.
Lundi en direct de Vernier à 14h.
Mardi en direct d'Échallens à 10h et de Dondidier à 14h.
Mercredi en direct de Nomartigny à 10h.
Jeudi en direct de Corgémont à 10h et de Basse-Cour à 14h.
Et vendredi en direct de Peseux à 10h.
La semaine des médias sur Radio Bus.
Ça déménage.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bus. Notre émission aujourd'hui va tourner autour du sujet des publicités et sur comment elles arrivent à nous manipuler. Vous verrez, après notre émission, vous saurez tout sur les marques et sur leurs techniques de manipulation. Nous sommes au collège des Trois Sapins avec Manon, Jessie, Dorine et moi-même. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il nous semblait être bien en rapport avec le thème de la semaine des médias. Sans plus tarder, une musique de Léa Pacci qui s'intitule « On prend des notes ».
Mesure du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent, on sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort.
Très belle musique de Léa Pacci. Maintenant, une première chronique de Manon sur les techniques de manipulation des publicitaires. Mais dites-moi, vous qui nous écoutez, vous ne vous êtes jamais demandé quelles techniques ils utilisent pour rendre leur pub intéressante? Et toi, tu ne t'es jamais demandé ce qui les rendait si intéressantes?
Oui, et la réponse est simple. Les spécialistes du marketing utilisent plusieurs techniques de manipulation pour qu'on achète leurs produits.
Mais tu sais quelles techniques ils utilisent?
Oui, j'en connais quelques-unes et je vais tenter de te les expliquer. La première des techniques, c'est de nous rendre jaloux.
Mais ils peuvent nous rendre jaloux comment?
Par exemple, les slogans sont passés de « La nouvelle berline X vous assurera confort et sécurité » à « Savez-vous qu'il est essentiel d'avoir une nouvelle berline X ? Avez-vous vérifié que votre voisin ne l'a pas encore ?» Ces petites remarques s'appellent la comparaison sociale.
Ah d'accord, mais ils utilisent quoi? Comment cette technique?
Non, il y a aussi une technique de manipulation fourbe et psychologique. Par exemple, vous vous promenez dans un supermarché à la recherche de la bouteille de soda que vous achetez habituellement. Mais vous voyez une autre bouteille, le logo vous rappelle quelque chose et vous la choisissez elle. En sortant du magasin, vous vous demandez où vous avez pu voir le logo de cette nouvelle marque de soda. C'est évidemment dans une pub que vous l'avez vue. Et je suis sûre que vous avez déjà été victime de cette situation.
Mais comment mon cerveau s'en est rappelé alors que je ne me suis pas rendu compte?
C'est un montage d'images qui nous fera plus facilement mémoriser les publicités. Par exemple, vous attendez votre film et vous voyez quelques pages de publicité, dont une pour un soda, mais vous n'y prêtez pas attention. Votre film commence. Dès les premières scènes, on peut y voir des adolescents qui s'amusent et ils boivent un soda. Là encore, vous n'y prêtez pas attention. Pourtant, votre mémoire vient d'être sollicitée. Ils diffusent un programme en relation avec les publicités qui l'ont précédé pour que le cerveau du téléspectateur se souvienne de la marque.
C'est fou ce qu'ils font pour que les téléspectateurs se souviennent de la publicité.
Eh oui, mais ils nous manipulent aussi sans qu'on ne s'en rende compte et ils mettent nos sentiments à l'épreuve. Par exemple, un exemple suffira à l'expliquer. Il y a quelques années, le gouvernement a diffusé une publicité de sécurité routière avec des images limite insoutenables. Et deux pages de pub plus tard, on pouvait voir un magnifique spot vantant les mérites du dernier 4x4 Toyota. L'effet recherché est simple, sensibiliser le téléspectateur sur les dangers de la route et lui montrer quelques secondes plus tard la solution au problème, c'est-à-dire une grosse voiture où rien ne peut lui arriver. Pour montrer cet effet d'amorçage d'apprentissage, deux psychologues ont fait visionner un spot choc sur les dangers de la route à une partie des volontaires et un document sur le pétrole et la pollution à l'autre partie. Après, ils ont fait remplir la même question à tous les volontaires afin d'évaluer leurs intentions d'achat vis-à-vis d'un 4x4. Les volontaires du premier groupe ont manifesté de fermes intentions d'achat car ils ont retenu que l'enjeu sécuritaire, contrairement à ceux de l'autre groupe qui disaient ne jamais acheter de 4x4 à cause de la consommation d'essence.
Moi, je trouve ça incroyable comme ils jouent avec nos émotions.
Oui, mais ce n'est pas fini. L'avant-dernière technique, c'est de jouer avec l'égocentrisme du téléspectateur.
Ça veut dire quoi exactement ?
Si tu veux, il a été montré que l'argent avait pour effet de rendre les cobayes plus solitaires. Dans cette expérience, les volontaires ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe voyait des images avec des symboles de richesse et le second avec les mêmes images mais sans les symboles de richesse. Après ça, ils ont fait une expérience. Les volontaires ont quitté le bâtiment par le couloir. Dans ce couloir, un acteur a laissé tomber son pot de crayon. La plupart des gens qui ont vu le symbole de richesse sur l'image n'ont pas aidé l'acteur à prendre le crayon. La plupart de l'autre groupe l'ont aidé. Donc on voit souvent des publicités qui mentionnent de l'argent. Ils ont préparé notre cerveau pour les publicités à venir et vous pouvez être sûr que ces publicités traiteront soit de cosmétiques, soit de produits minceurs. Du coup, la plupart des téléspectateurs seront plus susceptibles d'être touchés par ces produits et ils veulent les avoir le plus tôt possible.
Ça fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a encore une technique.
Eh oui, il n'en reste plus qu'une, sur le conditionnement associatif. Si tu veux, le conditionnement associatif est mis en avant grâce à la musique. Par exemple, on te diffuse une publicité avec une musique qui te plaît. Tu auras alors associé le produit à quelque chose que tu aimes.
Ah ok, merci de m'avoir expliqué le fonctionnement des publicités. Et grâce à toi, je sais faire attention quand je vois des pubs. Et j'ai une dernière question. Tu as trouvé où toutes ces informations ?
Je les ai trouvées sur Institut Pandore, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos.
Merci, je pense que j'irai y jeter un petit coup d'œil. Donc, si j'ai bien compris, les pubs arrivent en quelque sorte à rentrer dans notre cerveau pour que le produit en question soit extraordinaire.
Oui, c'est ça, tu as tout compris.
En tout cas, cette chronique était très intéressante. Et maintenant, nous poursuivons avec une musique de Shania Twain qui s'intitule « Man, I feel like a woman ».
Let's go, girls. Girls need a break tonight. I'm gonna take a
Nous allons écouter une deuxième chronique présentée par Jessie qui va nous expliquer comment les pubs nous manipulent.
Alors Jessie, peux-tu nous expliquer comment les pubs nous donnent-elles autant envie d'acheter les produits qu'ils présentent ?
Eh bien, premièrement, les gens qui créent les publicités sont des professionnels. C'est leur métier, donc pas étonnant qu'ils sachent comment s'y prendre. C'est du marketing et de la communication bien pensée. Les gens utilisent des techniques de manipulation pour vous faire accepter et apprécier leurs produits et ainsi vous donner envie de les acheter.
Mais alors pourquoi dit-on que la publicité manipule les consommateurs ?
Eh bien, pour qu'un message publicitaire soit bien perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Par exemple, quand vous regardez votre film du soir et qu'il est entrecoupé de publicités, celles-ci vont vous captiver parce que vous êtes devant la télé et que vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre que le film continue. Donc vous regardez les pubs. Les publicités sont agendées en fonction de l'heure à laquelle elles passent et devant quel type de téléspectateurs. Par exemple, ils vont passer une publicité pour une poupée qui parle ou une super voiture télécommandée lorsqu'il y aura un programme pour les enfants. Ainsi, l'enfant ira demander à ses parents de lui acheter le jouet qu'il vient de voir. Regardez tous les journaux de jouets que l'on reçoit dans la boîte aux lettres à l'approche des fêtes, avec des autocollants pour les coller dans la lettre au Père Noël. C'est typiquement de la manipulation. La publicité crée un sentiment d'envie chez le consommateur. C'est là que va, dans certains cas, émerger chez le consommateur l'acte d'achat.
D'accord, je comprends enfin pourquoi toutes ces publicités me donnent-elles autant envie d'acheter encore plus de produits. Mais dis-moi, quel est le but de la publicité au final ?
Au final, le but de la publicité, c'est d'attirer l'attention des consommateurs sur quelque chose que l'on souhaite vendre, un objet, de la nourriture, un voyage, un concert ou autre. C'est aussi un moyen de faire connaître le produit ou une marque et de le montrer au public. Finalement, le but est de vendre encore et toujours plus.
Mais du coup, tu as quelques exemples de pubs manipulées à nous donner ?
Oui, bien sûr. Prenons par exemple le McDonald's. Les photos publicitaires sont présentent le hamburger beau et brillant, mais en fait, la photo est retouchée sur un ordinateur. Dans la vraie vie, ton hamburger est écrasé au fond de sa boîte, tout de travers, avec la viande et le fromage à l'opposé.
Ah oui, effectivement, mon hamburger n'est jamais parfait. Tu as un autre exemple ?
Bien sûr, dans les pubs de shampoing, par exemple, les filles ressortent de la douche avec une chevelure parfaite et brillante et soyeuse. Tandis qu'en réalité, le produit donne les cheveux secs ou gras et fait des nœuds.
Ah oui, je reconnais bien cette situation. En conclusion, quel conseil nous donnes-tu pour éviter ce genre d'arnaque ?
Pour ne pas se faire avoir et regretter un acte d'achat, il faut d'abord bien se renseigner sur le produit présenté avant de l'acheter ou de le commander. Lorsque le produit est technique ou complexe, on peut même appeler le fournisseur ou le magasin si on a besoin de plus de détails ou même se déplacer pour avoir le produit en vrai. Ensuite, il faut vérifier si le site où vous voyez la publicité n'est pas louche, par exemple des fautes d'orthographe, des fausses images ou autres. Sur Internet, on peut aussi trouver des avis d'autres consommateurs qui ont acheté le produit et disent ce qu'ils en pensent. Ça doit bien se rendre compte si le produit en vaut la peine ou pas. Et puis, il faut bien réfléchir si on a vraiment besoin de ce produit. Est-ce que c'est superflu ? Est-ce qu'on peut se le permettre financièrement ?
Bon, eh bien merci beaucoup Jessie pour tous ces conseils très intéressants.
Mais de rien, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site internet vivelapub.fr.
Super, j'en prends note. Merci à tous pour votre attention.
Merci Jessie. Passons maintenant à une musique de Lily et Madeleine qui se nomme Peppermint Candy.
Thank you.
La semaine des médias en radio.
C'est sur Radiobus.
www.radiobus.fm
ou en DAB+, sur la région Léman.
Les Chablais, Vaudois et Valaisan.
La vallée du Rhône, de Saint-Maurice-à-Thiers.
Le Nord Vaudois et le littoral Neuchâtelois.
Ou depuis partout
avec l'application smartphone gratuite Radiobus.
Il est 10h17, vous êtes toujours sur Radiobus, semaine des médias à échelon. Nous poursuivons donc avec Dorine qui va nous présenter son sujet.
Alors maintenant, nous allons donc parler des marques et de leur type de publicité.
C'est vrai, en plus sans s'en rendre compte, nous voyons beaucoup de publicités par jour. Que ce soit dans la rue, à la télé ou même à la radio.
Oui, et on ne se rend aussi pas forcément compte qu'il y a effectivement différents types de pubs sur lesquels les marques visent. Alors je vais donc vous en donner deux sortes et celles qui attirent le plus l'œil. Alors nous allons prendre d'abord l'exemple des marques de luxe qui investissent des millions chaque année dans leurs campagnes de publicité. Ces marques y mettent alors l'aspect mode avec un casting de fou et des paysages de rêve. Bien évidemment, ils ne vont pas montrer les prix les plus chers, donc ils mettent les plus petits prix ou des réductions.
Alors ça veut dire que quand on va acheter le produit, le prix va être plus haut ?
Pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Après, les marques ne misent toutes pas forcément sur le rêve, comme on dit.
Tu as un exemple d'une autre marque qui ne mise pas forcément sur ce rêve, comme tu dis.
Prenons une pub d'IKEA. Une de leurs pubs va montrer le besoin désespéré d'une famille qui doit trouver une étagère le plus vite possible et à bas prix, ce qui est une situation assez courante. La pub va montrer qu'IKEA est toujours là, pas loin pour ce genre de situation. Donc, au lieu de se concentrer sur le produit qu'ils vendent, ils vont se concentrer sur la solution qu'ils proposent.
Et à ton avis, qui est le plus gagnant entre les deux ? Se concentrer sur l'aspect du produit qui est mis en valeur ou une solution ?
Tout dépend aussi de la marque. Si on prend une marque de parfum, elle va mieux réussir à vendre en mettant en valeur leur produit qu'en montrant une solution. Alors que pour moi, une pub IKEA va mieux fonctionner avec une solution. Après, c'est mon avis, bien sûr.
C'est vrai. Après, les gens vont de moins en moins prêter attention à certaines pubs, car souvent, les marques jouent ou trichent sur certaines choses pour plus vendre. Mais j'ai encore une question.
Oui ?
Il n'y a pas que ces deux manières de faire une publicité, elles ne misent pas toutes dessus.
Non, il y en a plein d'autres.
Ah oui, par exemple, l'autre jour, je regardais une interview de Joe Lapompe, un homme à la chasse aux publicités jumelles qui tient un blog sur ça. En parlant de publicité, il a donc dit que pour lui, une pub devait être étonnante, qu'elle devait nous interpeller, se démarquer des autres. Donc chacun a sa manière de distinguer.
Oui, c'est vrai. As-tu d'autres questions ?
Est-ce que les pubs embauchent des célébrités pour faire marcher leurs produits ?
Oui, certains grands athlètes, acteurs ou des célébrités font la promotion de certains produits qui n'ont parfois pas un grand rapport entre eux. Ces stars sont souvent appelées là aussi pour approuver leurs produits et pour susciter la popularité.
Donc on peut en conclure que les marques n'attirent pas l'œil de toutes de la même manière, et toutes ont leur spécialité.
Exactement.
Ok, merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Merci Dorine. Tout de suite, une dernière musique de Ophélie Winter qui s'intitule « Sache ».
Mal à faire semblant, de sourire devant les gens, d'ignorer ce que j'entends. Tu me saoules avec tes plans, je sais bien que tu me mens. Je vais pas passer mon temps à t'attendre gentiment. Aujourd'hui c'est
Baby, que tu t'es fini. pratique, n'est-ce pas? Pour finir, une dernière chronique de moi-même. Je vais commencer par vous raconter une expérience sur l'effet qu'a la publicité sur notre cerveau. Elle est liée à deux marques extrêmement connues, Coca-Cola et Pepsi.
Ah oui, je connais ces marques. Personnellement, je préfère le Coca.
À mon avis, je pense que tu n'es pas la seule. D'ailleurs, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas et que les marques vous manipulent. Justement, notre émission va parler de ce sujet. Imaginez que l'on vous demande de participer à une expérience. Elle concerne deux boissons qui se ressemblent énormément, le Pepsi et le Coca-Cola. Leur composition est presque la même et leur goût aussi. Vous faites partie d'un groupe qui goûte à ces deux boissons. On demande ensuite à chacun laquelle il préfère. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, leurs réponses seront différentes s'ils dégustent ces boissons en voyant la marque ou pas. Un neuroscientifique américain a observé que lorsqu'on n'identifie pas la marque, le Pepsi est préféré au Coca-Cola.
Ah, je vois, j'étais pourtant sûre de préférer le Coca. Mais peut-être que non, finalement. Du coup, comment ça se passe quand les marques sont visibles ?
Oui, j'y viens justement. Du coup, quand les marques sont visibles, le Coca est préféré au Pepsi. Cela s'observe dans le cerveau, dont les zones d'activité ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Quand les personnes ne savent pas ce qu'elles boivent, la zone cérébrale la plus sollicitée correspond à celle des plaisirs et le Pepsi l'emporte. Dans le second cas, ce sont les zones associées au jugement et à la mémoire qui sont le plus utilisées. Et le Coca gagne la comparaison.
Eh bien, c'est vraiment compliqué tout ça.
Oui, vraiment. En plus, ces résultats montrent que c'est le marketing qui nous conduit à préférer le Coca au Pepsi et non le plaisir pris en le buvant.
Mais comment est-ce possible que cela puisse arriver ?
Plusieurs phénomènes permettent d'expliquer les effets de cette sorte de publicité sur notre cerveau. Il y a surtout la simple exposition, c'est ce qu'on appelle l'influence inconsciente. Celle-ci est une influence dont nous n'avons pas conscience et qui va modeler à notre façon de penser et orienter notre comportement. Il y a aussi une citation que j'aime beaucoup sur la publicité qui dit « À force d'appeler ça ma vie, je vais finir par y croire, c'est le principe de la publicité » de Samuel Beckett.
Est-ce qu'il y a d'autres expériences en ce genre qui ont été faites ?
Oui, bien sûr. J'en ai encore une à te raconter justement, qui a été réalisée sur des étudiants en psychologie.
Ah, super !
Prenons le cas de cette deuxième expérience, cette fois réalisée en France pour un cours de psychologie. Des étudiants devaient travailler sur un site internet. Pendant qu'ils apprenaient ce cours, des publicités apparaissaient en haut de leur écran d'ordinateur. Une caméra surveillait leurs mouvements de leurs yeux et faisait disparaître ces publicités avant même que les étudiants aient pu y prêter attention.
Ah, je vois. Mais ils pouvaient se souvenir des publicités ?
Non, ils en étaient incapables de se souvenir de ces publicités qui étaient apparues. Pourtant, contrairement à un autre groupe qui n'avait pas eu de publicité, ils affichèrent des attitudes plus favorables à l'égard des marques qui s'exposaient et exprimèrent des intentions d'achat plus fortes que ça le jour même, mais aussi encore 8 jours plus tard.
8 jours plus tard ? Mais c'est énorme.
Oui, c'est vraiment impressionnant. En plus, on ne peut que penser aux utilisations qui pourraient être faites de ces expositions dans la publicité de tous les jours.
Mais ça devrait être interdit, je trouve.
Oui, je suis d'accord. Mais heureusement, la pratique est interdite dans de nombreux pays, mais pas dans tous. Mais sans aller jusqu'à ce niveau de manipulation, on peut déjà s'interroger sur la masse de messages auxquels nous sommes soumis et à laquelle nous ne prêtons pourtant pas attention. Les écrans publicitaires sur les sites internet sont des exemples.
Ah d'accord, je vois, mais alors comment faisons-nous pour contrôler ce que l'on voit ?
On ne peut pas, c'est justement le principe de ce genre de publicité. Personnellement, je trouve ça décevant d'être dans une société aussi développée que la nôtre et que cela puisse encore arriver. Au moins maintenant, vous savez que les marques cachent bien leur jeu derrière leur si belle publicité qui nous donne si envie.
Oui, merci beaucoup. Je ferai maintenant plus attention aux publicités que je vois tous les jours.
Eh bien, je vous en prie. C'est déjà fini pour nous aujourd'hui. C'était Radio Bus et nous sommes la 10DP4 au Collège des Trois Sapins. Merci à toutes nos chroniqueuses et à Noah et Blasé, nos techniciens. Si vous avez aimé nous écouter, retrouvez-nous le mardi à 9h, le mercredi à 11h30 et le jeudi à 21h sur Radio Asticot. Si vous voulez nous écouter plus d'émissions, vous pouvez vous rendre sur radiobus.ch. Maintenant, je vous laisse avec Noah pour l'émission suivante. À bientôt. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied.
just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love.
C'est sur Radio Bus.
Radio Bus.
www.radiobus.fm.
Bonjour à tous, nous sommes en direct de Radio Bus à Échallens pour une chronique de gaming avec les chroniqueurs Ryan, Noah et Blasé. Et nous allons vous parler de Splitgate Warzone et nous allons faire une comparaison entre la PS5 et la Xbox Series. Avant de commencer, une musique de Tool of the Lion's Head.
Flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door and rolling on the floor. I never seen passion like this before. That's when she turned to look at me. That's when she said the craziest thing. True love is the greatest. Don't wanna make a scene, whatever do you mean? I was kinda looking for an in-between. Don't wanna meet your folks, yeah, that was just a joke. Now I guess I'm sliding down that slope. If you love me, so you're always thinking of me. Don't have another tear to shed. Find another man. You can make a heel ahead. Wah, wah, they've been running over town. Wah, wah, screaming, look at what I found. True love is the greatest. True love is the greatest. True love is the greatest. And you're just can't wait to take her on a date. I feel so lucky, could it be fate? From the window to the wall, sweating for a call, trying to relax, but I can't at all. Let's do it in Vegas. Your daddy will hate us. I try to calm down, but now I'm not around.
Toujours en lien avec le thème de la semaine, les médias. Tout de suite, une chronique de Blasé et Ryan qui vont vous aider à faire votre choix de console pour Noël.
Alors, commencez avec la PS5. Quel est son prix ?
Elle coûte 499 francs pour la version standard et 399 pour la version digitale qui n'a pas de lecteur Blu-ray.
Peux-tu nous parler un peu de cette console ?
Bien sûr. Elle fait du 4K et peut pousser jusqu'à 120 gigas images par seconde sur, sur des télés qui le permettent. La console a 825 gigas de stockage, mais seulement 667 gigas utilisables. Elle est très grande et prend donc beaucoup de place, mais heureusement, elle fait bien moins de bruit que la PS4, qui, elle, faisait le bruit d'un avion.
J'ai entendu dire que la nouvelle manette était super, est-ce vrai ?
Oui, c'est vrai. La nouvelle manette nommée DualSense, qui coûte 79 francs, surpasse actuellement celle de toutes les autres consoles. Avant, Xbox faisait des meilleures manettes que PlayStation, mais cette fois, c'est PS qui gagne. La DualSense est très agréable en main. Les gâchettes L2 et R2 sont adaptatives, ce qui veut dire qu'il faut mettre plus ou moins de force suivant les actions que vous faites dans le jeu. Le retour haptique qui remplace les vibrations traditionnelles, en gros, c'est des vibrations de plus haute qualité et plus agréables. Elle possède aussi un microphone intégré.
Et pour les anciens joueurs, comment ça se passe-t-il ? Ils devront tous recommencer ?
Non, les comptes PS4 sont récupérables et les jeux PS4 sont aussi compatibles avec la PS5. Et ne vous inquiétez pas si vos amis n'ont pas la dernière console, vous pourrez quand même continuer à jouer avec eux sur PS5 et aussi parler en partie vocale, même avec les gens qui ont l'application PlayStation sur leur téléphone. Ce n'est pas en rapport avec la question, mais sur PlayStation, il y a aussi des exclusivités comme Demon's Souls ou Spider-Man.
Voilà, c'est tout pour la PS5. Après une musique de Sugar Sugar de The Archies, nous allons parler de la Xbox.
C'est au tour de la Xbox.
Oui, bien sûr. Elle coûte aussi 499 francs et a à peu près les mêmes capacités que la PS5. Elle fait du 4K et jusqu'à 120 images par seconde. La console a un flux d'air optimisé. Elle a 1 Tera, ce qui est égal à 1000 Go de stockage et seulement 802 Go utilisables.
Et à quoi elle ressemble ?
Beaucoup de gens trouvent qu'elle ressemble à un frigo. Moi, je trouve qu'elle a un design assez classique. Elle est cubique, mais bien moins encombrante que la PS5.
Peux-tu nous parler de la manette ?
Elle coûte 69 francs, elle tient bien en main, la texture des gâchettes font qu'elle tienne fermement sous les doigts, elle fonctionne avec des piles.
Et pour les jeux ?
Ceux des anciennes générations sont compatibles avec la nouvelle console. Comme exclusivité, il y a par exemple Halo Infinite ou Forza Horizon 5.
J'ai remarqué que c'était très dur de se trouver une de ces consoles. Qu'est-ce qui explique cette pénurie ? J'espère que ça ne va pas être dur trop longtemps.
Oui, effectivement, c'est très compliqué d'en acheter une car le Covid a stoppé la production de certaines pièces que l'on retrouve aussi dans d'autres appareils comme des PC par exemple. Et comme la demande en console est très forte, les stocks se vident en quelques minutes, voire quelques secondes. Malheureusement, on ne sait pas jusqu'à quand cela va durer, probablement même jusqu'en 2022.
Bon, eh bien, je pense qu'on a fini. Du coup, laquelle choisir ?
En fait, il n'y a pas... Deux points importants pour choisir. Et peut-être que vous en avez d'autres. Premièrement, les jeux. Il faut regarder les exclusivités. Il y en a plusieurs des deux côtés, comme celles que j'ai citées avant. Deuxièmement, vos amis. Si vous voulez jouer avec vos amis et qu'ils sont tous sur PlayStation, eh bien, achetez une PlayStation ou inversement.
Voilà, nous avons fini. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que nous vous avons aidé à choisir et que vous arriverez à acheter votre console Next Gen malgré la pénurie. Au revoir.
Maintenant, une musique Descendre de Les Fils du Facteur.
La semaine des médias en radio.
C'est sur Radio Bus.
www.radiobus.fm.
T'étais à peine à l'aube au matin de ta vie. Que déjà ton soleil a fait place à la nuit. Un abîme insondable s'est ouvert sous mes pieds. Comme un coup en plein cœur de la réalité. Dans les brumes de mes rêves où tout n'est plus que toi. Je parle à des fantômes qui ont un peu ta voix. Et le cauchemar commence quand je dois m'éveiller. Dans le lit infernal de la froide vérité. Un ange trépasse. Tout est silencieux.
Voilà, maintenant que vous avez choisi votre console, on va vous conseiller des jeux en commençant par Splitgate.
Alors bonjour à tous, nous sommes toujours sur Radio Astico. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un youtubeur amateur qui a commencé en mars 2020 et qui essaye de vivre de cette passion. Si vous avez des questions à lui poser, appelez-le 077 987 42 12. Et s'il vous répondra, ça sera en direct.
Bonjour à tous, je suis Noah, youtubeur et gamer. Je joue essentiellement à Splitgate et j'ai 12 000 abonnés.
Et qu'est-ce que c'est Splitgate ?
Alors Splitgate est un jeu de combat en équipe ou en solo. Vous pouvez aussi jouer avec vos amis.
Et vous préférez le solo ou en équipe ?
Moi je préfère jouer en équipe avec mes potes. D'ailleurs tous les jeudis de 18h à 20h je fais des parties avec mes abonnés. Si vous voulez jouer avec moi, venez sur mon Discord noah.splitgate.abonné.
Oh cool, mais bon, dites-nous en plus sur ce jeu s'il vous plaît.
Oui, ce jeu a plusieurs modes comme le Fiesta en équipe et de loin, qui est de loin mon préféré. Il consiste à tuer vos adversaires pour marquer des points. À chaque fois que vous êtes éliminé, vous avez de nouvelles armes et la première équipe à 50 points a gagné. Il y a aussi des combats de sniper en mode solo où vous avez une nouvelle arme à chaque élimination que vous faites et le premier à 20 éliminations gagne. Il y a des modes 3 contre 3 aussi où... avec ou sans réapparition.
Eh ben, il y a beaucoup de modes. Et est-ce qui vous aide à éliminer vos ennemis ?
Alors bien sûr, vous avez les armes par lot de deux dans les parties et vous avez aussi des portails de téléportation pour surprendre vos ennemis, ce qui fait que ce jeu se démarque des autres.
Je n'avais jamais vu un jeu avec des portails. Ça a l'air vraiment cool.
Oui, c'est vraiment différent des autres jeux et c'est original.
À quel problème a ce jeu ?
Ce jeu a beaucoup de critiques par rapport au serveur qui est souvent plein et les jeux sont bloqués en attendant que d'autres quittent le jeu.
Ouais, je comprends, vu beaucoup de gens jouent à ce jeu en ce moment.
D'ailleurs, il a plus de 10 millions de téléchargements qui est totalement gratuit sur PC, PS ou Xbox.
10 millions ! C'est énorme !
Oui, effectivement, mais malgré tous ces gens qui aiment ce jeu, il y en a bien sûr quelques-uns qui n'aiment pas ce jeu.
Bah oui, sinon ça sera pas drôle.
Il y a par exemple un auditeur qui nous dit « Jeu très correct, mais le crossplay rend l'espérance toute claquée. Jouer avec des joueurs manettes qui ont l'autoluc complètement abusif, déséquilibre totalement le jeu. »
C'est quoi ça le crossplay ?
Le crossplay est le fait de pouvoir jouer avec des joueurs Play en étant PC ou des joueurs Xbox en étant Play. Puis les joueurs Play ont une aide à la visée, ce que les joueurs PC n'ont pas. Et ça donne du coup un sacré avantage pour les joueurs Play.
Ah ok, je comprends mieux maintenant. Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet.
Tout le plaisir est pour moi. Si vous voulez encore plus d'infos, allez sur les sites storesteampower.com ou sur plateaustream.net.
Merci encore. Je vais installer ce jeu dès que je rentrerai chez moi. J'espère pouvoir jouer avec vous.
Oui, moi aussi. Maintenant, une musique Summer is a Curse de The Fame.
The devil, I can't see what the future holds, but I wanna know.
Voilà, comme vous l'avez promis, le deuxième jeu qu'on va vous conseiller est Warzone.
Et voilà, on est toujours sur Radio Astico. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Warzone. J'ai la chance d'être accompagné d'un expert et youtubeur, Noah Conrad, qui va nous parler de son domaine, le gaming, mais plus précisément de Warzone. Si vous débutez sur le jeu, vous pouvez lui poser des questions pendant ses lives. Il vous répondra au direct.
Ouais, je vous répondrai tous les soirs le jeudi.
Bon alors Noah, tout d'abord, je préfère te le rappeler, je m'y connais pas du tout de Warzone.
Ne t'en fais pas, tout d'abord je vais t'enseigner les bases. Alors Warzone, c'est un Battle Royale et vous êtes environ 150 joueurs sur une île déserte.
Ok, c'est bien joli, mais comment on fait pour gagner?
Tu vas voir, c'est très facile. Comme je t'ai dit avant, vous êtes plus de 150 joueurs sur une île, il faut que tu sois le dernier survivant. Et ces 150 joueurs, le problème, c'est qu'il y a des armes pour se défendre. Du coup, si tu n'as rien sur toi, c'est foutu.
Ah ok, je comprends de mieux en mieux en soi. C'est comme une guerre. Pour gagner, il faut éliminer l'équipe adverse.
Tu vois, c'est pas compliqué. Il suffit juste de s'informer et le tour est joué.
Ouais, c'est vrai.
Bon, bref, le jeu est sorti le 10 mars 2020. Les développeurs sont Raven Software et Infinity Ward. Et les éditeurs sont Activision. On peut y jouer sur Play, Xbox et Microsoft. Le jeu est gratuit, mais vous pouvez acheter des cosmétiques et aussi, il y a plus de 100 millions de joueurs.
Wow, c'est super! Un si bon jeu gratuit, ça fait vraiment plaisir. Même si ça veut dire que le jeu est sorti il y a que un an et plus de 100 millions de joueurs qui y jouent. L'éditeur et les développeurs doivent en avoir plein les poches.
Oui, alors ça c'est dit, et d'ailleurs si vous en voulez plus d'informations, vous pouvez aller faire un tour dans les sites Call of Duty 2.warzone-wikipedia. Voilà, c'est la fin de cette chronique, j'espère vous avoir appris de nouveautés pour ceux qui ne savaient pas de quoi il s'agissait Warzone. Et pour les vrais fans de Warzone qui nous ont écoutés, je vous aime et à plus tard.
Merci beaucoup Noah, grâce à toi tu m'as donné envie d'y jouer et merci à vous de nous avoir écoutés et surtout comme vous commencez un jeu avec plus de 100 millions de joueurs, c'est normal qu'au début vous n'y arriverez pas.
Et maintenant une musique Sowing the Seed of Love de Tears for Fears. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aux techniciens Carmelo et Corentin et aux chroniqueurs Blasé, Noah et Ryan pour cette chronique et aussi à vous, chers auditeurs. Après la musique, nous vous laissons avec quatre autres chroniqueurs qui vont vous parler de la fiction et de la réalité.
Shout about it. Open hearts.
la semaine des médias en radio.
C'est sur Radio Bus.
Radio Bus. www.radiobus.fm.
www.radiobus.fm.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Semaine des Médias à Échallon. Notre thème actuel est la fiction ou réalité. Ce thème est là pour le fait que de nos jours, nous ne sommes jamais sûrs des informations que nous récoltons sur Internet, d'où la fiction ou la réalité. Nos différentes chroniques sont présentées par Corentin, Alex, Nelio et moi-même. Nous avons comme sujet l'Atlantide, le Triangle des Bermudes, le Léviathan, le Kraken et c'est tout. Nous sommes à Échallon et nous vous laissons tout de suite pour une musique. Nous venons d'écouter Hurting Me. Maintenant, je vais vous laisser sur la chronique sur le Triangle des Bermudes, présentée par Alexandre et moi-même. Le Triangle des Bermudes est-il réel ou imaginaire? Les histoires incroyables et les mystères non résolus vous passionnent? Alors, chers auditeurs, vous tombez bien, car aujourd'hui, on va vous parler du Triangle des Bermudes. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu de nom, mais connaissez-vous vraiment son histoire? Nous avons l'honneur de recevoir M. Alex, qui pratique des recherches depuis 5 ans sur ce sujet. Si envoûtant, il va donc nous faire part de ses découvertes. Bonjour Alexandre. Merci de venir nous faire partager vos connaissances sur l'histoire du Triangle des Bermudes. Dites-nous quand commence cette incroyable histoire.
Cette aventure commence en l'an 800, selon nos informations les plus anciennes. Le bateau français l'insurgent, capturé par les Américains, où se trouvaient 340 marins à son bord, ne donne plus de nouvelles dans l'actuelle zone du Triangle des Bermudes.
Y a-t-il eu d'autres disparitions non expliquées?
Oui, bien sûr, cela ne s'arrête pas là. De 1800 à 1850, 8 bateaux ont coulé ou disparu dans cette zone, et bien d'autres par la suite.
Et les marins qui naviguent dans cette mer, ont-ils peur?
Non, pas tous, car le fameux triangle se trouve entre Saint-Juan à Porto Rico, Miami et les îles Bermudas, d'où que l'on surnomme île du diable, et qu'il n'est pas rare qu'il y ait des tempêtes et des cyclones dans cette région.
Donc le triangle n'est pas réel, c'est juste des tempêtes ou des cyclones qui font couler les bateaux.
Attendez, car de 1900 à 1950, il y a eu 17 disparitions non expliquées. Mais le plus préoccupant est de 1950 à 2000, où 52 bateaux ont disparu. Sans oublier la fameuse histoire où 6 avions de la marine américaine ont disparu en même temps sans laisser de traces. À ce jour, nous n'avons aucune information concernant ces mystérieuses disparitions. Les marins ne veulent plus aller dans cet endroit. Ils parlent de monstres marins géants et d'enlèvements extraterrestres.
Ah oui, 52, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que c'est juste des tempêtes ou autre chose?
On ne le saura peut-être jamais, car ça peut être des tempêtes ou des émissions sous-marines d'un gaz hautement inflammable, ou bien, je dis bien peut-être, des monstres marins géants ou, allez savoir, des extraterrestres.
Mais sérieusement, vous ne croyez pas à tout cela? Il y a forcément une explication tout simple à toutes ces disparitions.
Non, car ça peut être beaucoup de choses, mais qui sait ? Avec la science, nous le découvrirons peut-être un jour.
Ok, mais cet endroit mythique se trouve dans quelle mer ?
Dans la mer Atlantique, et le triangle fait plus de 4 millions de kilomètres carrés.
Ok, mais est-ce qu'il y a des journaux ou des livres consacrés au triangle des Bermudes ?
Oui, il y a eu un jeu de société, un jeu vidéo, des livres comme Percy Jackson et la mer des monstres, qui fait référence au triangle, ou encore des films de science-fiction comme Les naufragés du 747.
En conclusion, le triangle des Bermudes est un endroit en forme de triangle dans la mer Atlantique, qui a fait couler des bateaux et des avions mystérieusement, dont nous n'avons toujours pas réussi à élucider les causes. Et cela a donné des idées aux gens qui en ont fait des films et des livres sur toutes ces histoires.
Tout à fait.
Eh bien, merci Alexandre. J'espère que nous nous reverrons sur ce plateau. Et maintenant, place à la musique. Stand By Me de Ben E. King.
Je vole par vent debout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes.
Allô, papa Tango Charlie, allô, papa Tango Charlie, répondez-nous, vous cherchons.
Celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes.
Allô, papa Tango Charlie. Allô, papa Tango Charlie. Répondez-nous, vous cherchons.
Veuillez nous excuser, on a mis une chanson qui parle du triangle des Bermudes, Allô Papa, Allô Papa, Tango Charlie de Mort Schumann. Tout de suite, une chronique sur le Léviathan, présentée par Nelio et Corentin.
Je m'appelle Corentin et aujourd'hui on va accueillir Nelio, un expert dans le milieu de la mythologie qui va nous parler du Léviathan.
Avez-vous déjà entendu parler du Léviathan ? Un monstre mythologique, colossal, mi-dragon, mi-serpent et mi-crocodile.
Waouh, c'est très impressionnant, heureusement qu'il n'existe pas.
Oui, heureusement, mais il peut être considéré comme l'évocation d'un cataclysme capable de modifier la planète.
Mais dis donc, vous n'avez même pas expliqué ce qu'est un monstre mythique.
Mais oui, vous avez raison. Les monstres mythologiques sont des créatures imaginaires. Ces monstres peuvent avoir des pouvoirs surnaturels, une force extraordinaire ou une taille colossale. Mais bon, attardons-nous plutôt sur notre Léviathan.
Mais en fait, d'où le nom Léviathan vient-il exactement ?
Le nom Léviathan veut tout simplement dire « monstre marin ».
Mais oui, ça paraît logique. Mais y a-t-il eu des films ou des dessins animés à ce sujet ?
Oui, il y a eu des dizaines de films, dont un best-seller. Mais ce qui est des livres, il y en a eu très peu, mais ce sont des livres très sous-cotés.
D'accord. Bon, je vais tout de suite aller acheter tous les livres et tous les films et je me lance dans une lecture et un visionnage sans fin.
Bon, nous devons quand même terminer cette radio un jour. Donc notre conclusion est... Le Léviathan a été écrit par Thomas Hobbes et a fait l'un des livres les plus vendus. Mais surtout, heureusement qu'il n'existe plus ce Léviathan.
Merci beaucoup, Nelio, pour toutes ces informations.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de la chronique. Et ces informations peuvent être retrouvées sur Larousse, Wikipédia, Universal et Le Temps. Maintenant, je passe la parole à notre animateur.
Merci beaucoup pour cette chronique. Tout de suite, une musique des 47 millionnaires de 77 Bombay Street.